Oui. L'impression que j'ai avec les trois exposés, c'est que finalement cette participation, qui est finalement un terme qu'on plaque peut-être sur des situations très diverses, qui ne correspond pas vraiment aux réalités vécues par les territoires en question. Mais l'impression que j'ai, c'est que finalement cette participation se construit à la fois contre l'État, d'une certaine manière, c'est-à-dire on le voit bien sur la situation indienne qui a été évoquée, c'est-à-dire que finalement il y a une asymétrie forte entre les gouvernements, disons, et les populations. Donc cette intégration de ces populations-là se fait contre des acteurs publics forts, et en même temps se fait aussi contre le marché. Et là c'est peut-être plus ambigu. C'est-à-dire que contre le marché, c'est le fait de faire reconnaître une propriété contre un marché qui, lui, se passerait fortement, forcément, de l'ancienneté qui permettrait d'obtenir une régularisation ou un titre. Et donc, ce que je me disais, c'était que cette question des communs qui a été abordée en partie et qui donc soit par le biais de la communauté, soit par le biais de communs dans le deuxième exposé, soit par un début de construction par le troisième, finalement ces communs ils se construisent toujours non pas entre le marché et l'État, mais contre ces deux entités. Et ce qui finalement fait le lien avec l'introduction que tu as faite, Dominique, c'est cette double origine donc, entre la servitude et la parité. Finalement, la participation n'est ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire qu'elle est toujours instable entre ces deux situations que serait une servitude pure d'un acteur par rapport à un autre, donc l'asymétrie complète entre un habitant et l'État, ou un habitant et le marché, ou une situation dans laquelle on aurait une parité complète, qui serait une communauté sans intérêt privé, par exemple, une communauté où on peut partager, où tout est partagé. Moi, ce qui m'a bien plu dans toutes ces présentations, c'est qu'on voit qu'en fait, il n'y a jamais de situation établie, de situation stable, et qu'on est toujours dans des rapports de force, même lorsqu'ils sont médiés, par exemple dans le dernier exposé, où on essaie de construire des médiations, on essaie de construire des situations moins instables, avec l'idée de prendre des personnes avec deux revenus minimum, etc., que ça atteigne 30% maximum la charge des loyers atteigne que 30% maximum. On voit bien qu'il y a une volonté de stabilisation, mais qu'en fait, ces situations-là sont toujours vulnérables. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Et ça rejoint la définition du commun que fait Christian Laval, qu'on accueillera d'ailleurs dans la séance du 14 mai, donc Christian Laval et Pierre Dardot qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Commun, qui est très intéressant parce que justement il dénonce l'idée qu'il y ait des biens communs et que le commun tiendrait par les biens en question pour remettre au centre les pratiques. Et c'était bien montré par l'exemple indien que finalement ces pratiques-là sont capitales et que ces pratiques se font toujours contre et toujours dans des rapports de force. Même la construction du commun, à mon avis, est un rapport de force, c'est-à-dire qu'un rapport de force externe, évidemment, mais aussi interne. Et l'exemple indien, est avec ses ambiguïtés sur le statut de l'individu, de la propriété individuelle et de l'action collective, était intéressant de ce point de vue-là. Donc, moi, j'aimerais bien que vous reveniez, parce que vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, mais j'aimerais bien que vous reveniez sur finalement la place stabilisée du collectif par rapport au rapport de force externe et interne.
C'est relativement pas encadré mais accompagné. Mais lorsque ça ne l'est pas, on se retrouve dans des situations où les tentatives des collectifs habitants ou des habitants individuels pour faire du commun, même s'ils ne le formulent pas comme ça, sont sans arrêt contrecarrés par le marché, par des spéculateurs émanant même des quartiers même, je veux dire. Moi, je me suis penchée quand je faisais ma thèse sur un cas assez intéressant, mais un cas d'un terrain de foot, enfin, qui était plus qu'un terrain de foot, qui était un ensemble de terrains vacants. La question de savoir comment on garde du terrain vacant pour un usage collectif futur, dans des quartiers dans lesquels il n'y a aucune autorité pour réguler le foncier, elle est dingue. C'est-à-dire, vraiment. Parce qu'on parle là de, à l'époque, moi j'étudiais ça, je ne sais pas combien il y avait d'habitants, mais il y en avait déjà peut-être 50 ou 100 000, j'en sais rien. Maintenant il y en a 5 ou 6 fois plus. Imaginons ce que ça peut être en termes de conflit, alors qu'il n'y a quasiment aucun espace. Les gens quand même maximisent le foncier, donc en fait c'est très très construit. Mais ils arrivent à garder des espaces vacants, bon c'était équivalent de peut-être un demi-hectare. Et en interrogeant les jeunes, enfin c'était des jeunes gars en fait, la plupart, leur truc c'était de dire on garde ça comme plus ou moins un terrain de foot et notre objectif c'est de garder ce terrain pour en faire des écoles. Plus tard, parce que c'était assez magnifique, parce que ça contredisait absolument tout ce que tout le monde racontait sur le fait que ces habitants étaient d'horribles spéculateurs qui pensaient qu'à s'accaparer les terrains et à maximiser le profit. Et en fait, ils sont allés voir plusieurs fois les autorités locales, ils sont rentrés en négociation. Donc ça, c'était bien avant qu'on parle de commun, c'était l'année 90. Et ils n'ont jamais réussi vraiment à faire quelque chose. Si après, ils sont associés avec une association un peu costaud qui a quand même réussi à préserver la moitié du terrain et à construire une mosquée, un centre communautaire, etc. Ce qui était déjà pas mal. Mais l'autre partie des terrains vacants ont été littéralement vampirisés par des habitants qui avaient besoin de terrain, par des spéculateurs qui sont parfois armés. Enfin, il faut quand même voir que la réalité maintenant dans les grandes villes, c'est que l'habitant, c'est pas cuit, etc. C'est aussi c'est toutes sortes de gens. Et il y a aussi des mafias. Donc la présence à leur côté des autorités est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire on crée du commun, c'est comment on garde, comment on maintient, comment voilà. Et des habitants, le collectif seul ne peut pas faire face. Mais bon, encore faut-il le prendre en considération déjà, c'est déjà une première condition. Et après, juste, bon, ça serait un truc que moi j'aimerais bien étudier si j'avais quelques possibilités de le faire, c'est ce réseau-là qui s'appelle Etiaja. Quand ils en parlent, qui a été fondé en Thaïlande, et qui est très actif en Thaïlande, aux Philippines, un peu aussi en Afrique. En Indonésie, mais beaucoup moins que d'ailleurs en Philippines, qui est présente dans 19 pays, donc asiatiques, y compris l'Inde, Vietnam, etc. Quand les coordinateurs en parlent, les organisateurs, ils disent quand même que la tradition asiatique, c'est pas de rentrer dedans. C'est de produire quelque chose, c'est de revendiquer une espèce de dignité en faisant. Donc là, je crois que il y a quelque chose de très simpliste dans cette énonciation, et qui est très essentialiste même, mais qui est à travailler. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse généraliser cette idée de la relation conflictuelle à toutes les situations. Voilà.
J'ai parlé de rapport de force, je n'ai pas parlé de conflit forcément.
Mais le rapport de force,
oui, c'est agonistique.
Oui.
Voilà.
En fait, le rapport de force, visiblement là, se construit en prouvant qu'on est capable de faire quelque chose. Ce qui n'est pas... on ne trouve pas beaucoup en France dans les mobilisations. Peut-être que ce n'est pas du tout l'esprit c'est très opposé à ce qu'on fait. Mais c'est vraiment atroce. Enfin, je pense que même sur le plan philosophique, pour le coup... et puis j'imagine qu'il y a des grandes variations et qu'en Inde, c'est littéralement faux dans plein de situations où là, c'est très, très, très domestique.
Oui, sauf qu'en même temps, je pensais plutôt que ce que je montrais n'était pas contre l'État, et peut-être même pas contre le marché, au sens où il y avait une coproduction, c'est-à-dire que ça ne se fait pas contre. C'est-à-dire, les gens sont là, ou arrivent, et cherchent une reconnaissance en mobilisant des ressources juridiques, des ressources locales, avec une coopération locale. Alors il y a des contre à des moments, parce qu'il y a tel... juridiction qui va dire c'est pas possible, mais on va aller à côté, on va contourner. Et il n'y a pas de confrontation globale, et il y a une conviction d'y arriver d'une certaine façon. Et qui est partagée, qui n'est pas une frontière claire, ne serait-ce que parce qu'on est à une échelle où parmi les habitants, il y a des gens qui sont de chaque côté de la frontière institutionnelle. Donc je crois qu'il ne faut pas voir l'État comme une espèce d'entité complètement... où on aurait à se confronter à l'État, et c'est plein, c'est la gouvernementalité locale. Quoi,
j'ai dit ça en fait en m'appuyant sur ce que vous avez dit au début, sur le fait que la cartographie participative avait pu servir à virer des populations.
Oui, là on est à une autre dimension qui est celle de l'institutionnalisation, et qui est dans un modèle de toute façon à la fin libéral où tout ça se résout sur le marché à la fin, parce que quand on régularise on produit un nouvel espace commercialisable.
Oui, sauf que vous disiez que c'était la question du risque qui était l'argument majeur et donc un argument de politique publique.
Oui, mais il va aussi dans l'idée de embellissement, donc des terrains autour qui sont... on n'est pas dans une logique de gestion du risque parce que les gens sont en danger et qu'on va les protéger. On est beaucoup plus dans une gestion du risque parce que le risque va servir à la valorisation. On enlève des pêcheurs de la côte parce qu'ils risquent le tsunami, mais on va les remplacer par des immeubles de 20 étages qui, eux, ne risquent pas le tsunami. C'est la même chose, c'est ces logiques-là qui sont en jeu. Et dans la question du marché, il y a peut-être une dimension, j'ai deux choses encore à dire, qui est importante, c'est qu'elle n'est pas pensée dans l'avancement du projet. On est dans l'urgence de résoudre une situation de précarité, et c'est que dans un temps second, par exemple, dans ce que j'ai montré aujourd'hui, le cas de Villepourin, les gens n'étaient pas dans une idée, bon, on va revendre nos parcelles, etc. Déjà, il faudrait se dire ce que c'est qu'un patin conditionnel, etc. Normalement, on ne peut pas vendre un temps, etc. Mais ça n'empêche pas les transactions. Mais de fait, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas pensé comme ça. Mais dans 20 ans, on peut penser que ça sera un espace entièrement incorporé à la circulation financière. Et peut-être que les gens qui sont là n'auront plus les moyens d'y être, etc. Mais c'est encore une autre histoire. Donc cette inclusion au marché, elle est complexe. Et ça pose la question... d'un entre-deux qui serait des communs, comme espace de résistance à la spéculation, finalement, à la possibilité de rester en vie. Ce qu'on regarde un peu actuellement avec différents endroits. Et là, ce qui apparaît, c'est aussi qu'on n'est pas contre l'État, mais bien dans des États où il y a une conscience que d'autres situations institutionnelles sont possibles. Si on regarde le Uruguay, il y a un cadre législatif fort qui permet, dans un contexte de ressources culturelles différentes, que se développe de façon massive quelque chose qui est entre le marché et l'habitat collectif classique, l'habitat social. Et on voit bien ailleurs, par exemple si on regarde le Kenya, s'ils voient l'impatri comme communiqué leur maîtresse pendant 20 ans, c'est qu'il n'y a aucun dispositif légal associé, ni de volonté sur le terrain, de se penser en tant que collectif pour réhabiliter ce où on habite. La loi vient de changer il y a 3 ans, ça prend du temps, mais il a fallu 20 ans. Si on regarde l'Amérique du Nord, les community land trusts, ils existent comme institutions très très fortes, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ils ont même été renforcés par la crise des subprimes, où les gouvernements locaux y ont vu un intérêt fort, parce que c'était des espaces qui n'étaient pas soumis à l'éviction, parce qu'il y avait une forte résistance à l'effondrement de leur endettement. Donc il y a bien une insertion sociale et politique du commun, possible comme entre eux. C'est pas contre.
J'aimerais peut-être, juste pour, en tout cas pour une partie de l'auditoire, en tout cas pour les étudiants de master, est-ce que vous pourriez préciser, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la dissociation foncière, ce qu'est le Community Land Trust, dans sa version indienne peut-être, renvoyée peut-être à sa version nord-américaine, et puis si vous souhaitez, ou alors si vous ne savez pas, je peux en dire deux mots, mais de sa traduction récente en droit français autour des dispositifs
Les
fonciers solidaires, tout à fait.
Du BRS.
Parmi les dispositifs institutionnels les plus établis, il y a le Community Land Trust américain, nord-américain, qui est sous forme associative de conserver le foncier en commun et d'avoir au-dessus, en grande partie de la possession privée, qui peut circuler, qui peut être vendue, mais sans le sol. Et généralement avec un encadrement des prix. Et pour une partie, il y a du locatif aussi, hein, je pense, avec certains modèles, un peu au Canada, où c'est tout est en locatif, mais encore une fois encadré. C'est-à-dire qu'à la revente, une grande partie de la plus-value va être conservée par la coopérative pour favoriser un accès social aux logements. Et donc, c'est des choses qui se développent en Angleterre, qui se développent sur une forme un peu spécifique en France, qui tient à l'institution du logement, et que le logement social n'a pas voulu lâcher. Donc c'est des formes très institutionnelles, très larges, contrairement à la Belgique par exemple, où ça prend une toute autre forme, beaucoup plus sur le modèle américain.
Et c'est très proche des coopératives du nord d'Europe ou...
C'est encore autre chose. Les mouvements coopératifs sont beaucoup plus autour d'ensembles associatifs qui ne reposent pas forcément sur un dispositif institutionnel fort.
Cette dissociation du foncier, genre du foncier et du bâti, hein, en fait, elle existe par ailleurs dans les pratiques du droit français de longue date, puisqu'elle repose sur le principe de ce qu'on appelle historiquement les dispositifs d'emphytéose. C'est une vieille pratique héritée en droit français, mais aussi dans les droits anglo-saxons, héritée du droit rural, et qui ont été transposées dans les questions urbaines. Donc, effectivement, on les voit revenir, on en discutera un peu cet après-midi, on les voit revenir dans les pratiques françaises très récemment. Par un retour, c'est intéressant, parce que c'est des pratiques historiques quand même du droit rural qui sont parties par l'Angleterre, puis par les États-Unis, en tout cas dans le système français, et qui reviennent de fait via le système nord-américain.
Enfin,
plutôt anglais ou dépendant. En plus, je dis anglais, que nord-américain, et qui reviennent d'une manière plus récente. Autour de la question des alternatives ou à la question foncière, à la spéculation foncière, en Europe, par des portes d'entrée, qui sont entre autres la Belgique, et puis la France, qui a donc, dans le cadre de la loi Allure de 2014, réglementé autour de cet organisme foncier solidaire, donc c'est comme ça que ça s'appelle en droit français, les OFS. Voilà, effectivement, c'est une façon de reposer quand même sur la question foncière, de manière globale. Je ne sais pas si c'est une question du commun en tant que tel, mais en tout cas, de reposer la question d'une non-appropriation strictement par le marché, et entre autres par le marché vu comme un marché spéculatif, sur la guerre, un marché non spéculatif, mais là, aujourd'hui, des marchés spéculatifs, sur la pression qui est faite dans le cas des productions foncières.
Juste pour ajouter à la problématique que ça pose dans les contextes notamment des pays en développement, de la Chine par exemple, sans qu'on soit exactement dans le fond du commun, mais toutes ces dissociations du foncier avec la production du développement posent un problème de la disparition du capital pour une grande partie des familles. Parce que si vous construisez du logement collectif de mauvaise qualité, au bout de 20 ans d'accession, vous n'avez plus rien en fait. Et vous ne pouvez plus bouger, et c'est une nouvelle trappe de pauvreté qui s'installe. Et on voit ça dans beaucoup. Et par exemple, la production massive de logements en Chine va poser rapidement cette question.
Autant pour la production privée de mauvaise qualité, on est avec la Latine.
Sauf que tu as le foncier qui a un objet de transaction de l'aide.
Ouais. Ouais.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, on a
un début de transition pour la fin.
Des questions?
Bien,
oui.
Je cours.
Bon, je suis sur la question de la transparence, parce que vous avez parlé des effets et en même temps, bon, il y a des aspects positifs au fait de cartographier les propriétés, etc., sur les parcelles. Comment on peut éviter ces effets pervers? Est-ce qu'on doit être contre cette cartographie de transparence? Est-ce qu'on peut l'éviter comment?
Alors, la question de...
C'est peut-être... Ouais. Ça pose peut-être la question, ce qu'on disait, c'est l'échelle, c'est-à-dire c'est entre la volonté de faire et reproduire, et ce que l'on peut faire localement, par exemple, en termes de coproduction, il y a toute une dimension, c'est-à-dire... C'est d'ailleurs garder localement la capacité de contrôler le mouvement qui est en place, qui est en question. Quand c'est des formules standardisées posées par des ONG internationales qui disent qu'il faudrait faire une cartographie, puis il faudrait faire ceci, sans ancrage local, là peut se poser un problème de dépossession, en fait, que l'on observe à certains endroits. Après, il ne faut pas non plus être... Moi, j'attire l'attention sur cette question de transparence de façon massive. Quand elle est mise en œuvre dans des grands plans, on peut s'interroger sur ses finalités. Après, de toute évidence, localement, ça passe par une mise en évidence de son occupation. Donc, il y a une dialectique qui est en place là, qui est inévitable.
Parce que vous êtes derrière les chefs et les acteurs aussi.
Voilà,
qui sont derrière.
Ouais, ouais.
Et les enjeux qui sont les
mêmes. Mais ce que tu dis, c'est qu'on a plus de force. Quand on maîtrise l'information localement, que quand elle est finalement rendue transparente de manière.
Ça dépend qui se l'approprie.
Je pense que c'est juste qu'en changeant d'échelle, les acteurs, du coup, en fait, ne se positionnent pas de la même manière. Il y a peut-être les jeux de rapport de pouvoir.
Inversement, on a des cartiers n'ont pas été cartographiés particulièrement, ils sont quand même démolis. Ouais. Je veux dire, ouais. Quand un gouvernement local ou pas local veut démolir, l'éviction, c'est quand même un truc. Il démolit. Enfin, je pense que la question, c'est plutôt de savoir, effectivement, c'est la question du contrôle, de l'autonomie et du contrôle. Parce que quand on prend tous les travaux pionniers sur la participation, il y a ces deux dimensions. Comment s'exerce le contrôle citoyen? Donc, peut-être qu'à un moment donné, c'est aussi le fait de refuser certaines associations avec des gouvernements locaux. Enfin, c'est-à-dire cartographier pas à tout prix, savoir où ça atterrit, etc. Mais en même temps, à un moment donné, si on veut être reconnu, et ça passera par le fait de payer des impôts locaux, sorte de taxe habitation, donc effectivement on peut le regretter, mais en même temps c'est comme ça, quoi, et donc par un minimum de mise en visibilité. Je sais pas si c'est
ou quoi. Non, c'est pas, oui.
Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que, bon, après ces grosses ONG, il y a un peu des travaux aussi là, il n'y a pas de travaux récents, comme dit Eric, il n'y a pas de travaux récents critiques là-dessus.
C'est très difficile de faire des évaluations autonomes de toutes ces institutions.
En même temps,
Sauf que j'étais un jour par hasard, j'étais au CAP, je suis allée au siège de SDI parce qu'on m'a demandé de venir pour une conférence. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement ouvert. C'est-à-dire je prenais des notes, les activités étaient décrites. Ça dépend, il y a aussi des acteurs qui sont ouverts à la recherche. Là. En fait, la responsable, le CAP, c'est l'antenne Afrique. C'était des gens qui étaient disposés à faire là, qui étaient aussi dans des dispositions de recherche, je pense que ça dépend aussi si
oui, c'est sur
un ton,
En fait, moi, quand je vous ai dit, c'était peut-être plutôt faire attention à cette. D'où vient cette rhétorique de la mise en transparence? Elle vient des marchés, en fait. Elle vient de quoi? Elle vient de transparence à la bourse, que tous les acteurs doivent avoir le même niveau d'information pour agir rationnellement. C'est de là que ça vient. Ça vient pas. C'est pas d'ailleurs. Et je pense que quand on le mobilise là, il n'est pas innocent non plus. Et quand il vient de grandes organisations internationales, de la DEFI, de la Banque mondiale, etc.,
Oui, alors, c'est ça. Il y a une campagne actuellement internationale pilotée par SDI qui s'appelle New York City, donc qui est visible sur Internet, etc. Donc, pour chaque ville, il y a, au-delà de la cartographie du quartier, une volonté de faire un travail un peu en détail sur l'ensemble des espaces, y compris périphériques, etc. Mais. Je pense qu'il y a peut-être deux choses, c'est la transparence avec la demande des marchés, mais et de l'autre côté, la reconnaissance qui, elle, passe nécessairement par un système de preuves qui est établi pas seulement par des titres, par du papier. Il y a eu un travail d'une AMR récemment sur cette démocratie du papier, mais par la preuve matérielle de l'existence. Quand les habitants du quartier sur lequel vous travaillez font un procès pendant plus de 10 ans, au gouvernement local, en l'occurrence, pour dire qu'ils existent, non, mais ça a l'air bête, mais enfin quand même, genre, on est là en fait, et c'est pas un petit squat, vous voyez, c'est un truc majeur. Eh bien, les réponses, les attendus des premiers jugements, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, puisque la carte est vide. Oui. Et alors, ce à quoi les habitants rétorquent, on a maintenant des factures d'électricité, en multipliant les preuves, qui sont d'autres types de preuves. À un moment donné, Google Earth a sauvé ce quartier, parce qu'on ne pouvait plus nier son existence massive. C'est tout, en fait. Et du coup, bon, s'ils avaient su, ils ont fait des cartographies par ailleurs, participatives, très maladroites, parce qu'il n'y a aucun soutien professionnel, approximatif, tout ce qu'on veut, ils l'ont fait. Les ONG locales le faisaient déjà, parce qu'elles avaient besoin de savoir, par exemple, elles demandaient des services de ramassage des déchets, pour qu'ils disent toujours pas, sur un cinquième du quartier, des sept. Bon. Pour demander le service que la bagnole de ramassage des ordures vienne, il faut bien dire qu'il y a des habitants. Donc il faut dire approximativement combien, etc. Oui.
Mais ce que tu dis, c'est bien ça, c'est que c'est en contexte, un endroit donné. Oui. Et que la question qui est posée, c'est celle de la fédération, où par exemple, une collègue à Utrecht, leur grand rêve, c'est de faire une cartographie globale à l'échelle du monde de tous les sols. Quand on leur demande pourquoi faire, parce que techniquement c'est intéressant, mais il y a une vraie question qui est posée derrière ça, c'est quelle appropriation de tout ça, de cette fédération globale d'information. Pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on va défendre?
Dans une autre mesure, et peut-être pour faire du lien aussi sur les questions des Sud et qui sont des Nord, cette question-là, elle a été posée de manière très concrète, en tout cas en France, sur la question du dénombrement de ce qu'on a appelé les surnuméraires des foyers de travailleurs migrants. Et elle est encore totalement d'actualité aujourd'hui sur la question de des fameuses politiques dites de résorption des foyers et des conditions, souvent sous un registre qui est un discours sous un discours de résorption des conditions sanitaires de vie dans les foyers. Ce que nous ont montré plusieurs travaux, entre autres la thèse d'Hélène Béguin, mais d'autres travaux plus récents aussi, c'est que derrière le dénombrement des surnuméraires, on est sur une cartographie, ça n'a pas du même ordre, en réalité c'est une mise en ordre des conditions d'accès à un logement réglementé et au passage du foyer avec une vision d'un espace délabré vers la résidence sociale qui serait le summum de ce que l'ordre républicain pourrait offrir. Mais au passage, c'est à peu près la moitié des résidents qui disparaissent, quoi. En tout cas, qui ne sont plus pris en compte dans les dispositifs. On a, c'est à peu près de cet ordre-là sur un certain nombre de... Donc on voit bien que ces questions-là, et on ne parle pas effectivement des cartographies, genre de la question des illégalismes autour des peuplements de Rome et compagnie, mais on voit bien que c'est en même temps totalement présent, parce qu'on a l'impression que dans nos espaces urbains, qui sont des espaces titrés, des espaces renseignés, on a l'impression que ces questions-là, alors elles existent peut-être pas en masse, comme effectivement elles le sont, mais elles sont quand même très présentes, en tout cas dans les espaces de nos villes, quoi. Et c'est, on dit, c'est aussi des vrais sujets sur lesquels il y a quelques travaux, mais... Cette question de la mise en visibilité, c'est aussi... Alors ça peut être une mise en visibilité pour acquérir du droit. C'est intéressant de voir que, du coup, les GAFA deviennent les meilleurs amis, le meilleur alibi des illégalismes. Ça les rendrait presque sympathiques. Mais c'est aussi la mise en danger, potentiellement, du dévoilement, quoi.